Vous écoutez RTL.
Et tout de suite sur RTL, notre second thème de curiosité, la chute de Napoléon. Bonjour Amélie de Bourbon-Parme.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, vous êtes historienne, vous signez pour le Parisien Week-end un article en partenariat avec RTL où vous racontez l'abdication de l'empereur. Peut-être qu'on va poser le décor, vous nous rappelez pendant combien de temps il règne sur la France et l'Europe?
En gros, il règne à peu près un peu plus de 10 ans. En gros, c'est 15 ans de règne puisqu'il y a la partie consulat qui marque vraiment la fin de la Révolution en 1799. Et puis, il devient empereur en 1804 et après, l'histoire continue en 1815.
Donc, une décennie pendant laquelle il a vraiment transformé la France, il ne faut pas l'oublier.
Il a jeté les fondements de la France moderne. Donc oui, c'est quelqu'un d'inoubliable, évidemment.
Il y a le Code civil.
Il y a le Concordat, il a réconcilié les Français entre eux et il a surtout réconcilié les puissances étrangères contre la France, ce qui était aussi une forme d'exploit.
Oui, ça c'est vrai. Mais il finira par s'effondrer. La chute de l'empereur, c'est ce qu'on va raconter dans un instant sur RTL.
Appelle-moi ton nom, citoyen.
Général Bonaparte, actuellement sans commandement.
Ah oui, Bonaparte.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler.
RTL.
Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Christian Clavier, vous avez reconnu sa voix évidemment dans le rôle de Napoléon, mini-série diffusée au début des années 2000, et c'est, pour en avoir discuté avec lui, l'un des rôles les plus marquants de la carrière de Christian Clavier. Il y a beaucoup de grands comédiens qui ont voulu, et puis pour certains, incarner Napoléon. On vous raconte la chute de l'empereur sur RTL avec l'historienne Amélie de Bourbon-Parme. Napoléon qui est encore et toujours dans l'actu, quoi. C'est ça qui est drôle. 97 ans après sa mort, les objets qui lui ont appartenu font encore l'actualité. Tiens, qu'est-ce qui va se passer à Brest le 14 octobre prochain?
Eh bien, il y a un transvasement d'un objet qui est le plus grand objet contenu dans un musée français, qui est le canot de Napoléon, alors qui était construit vers 1814 à sa demande pour aller visiter l'arsenal d'Anvers et visiter toutes les forces navales en présence. Mmh. Et il l'a utilisé une seule fois. Après, c'est Napoléon III qui en a fait le même usage un peu plus tard. Et cet objet un peu mythique comme ça, qui appartient au ministère au musée de la Marine, va être transvasé à Brest, retourné dans ce lieu qui, au fond, qui appartient quand même plus à un bateau.
C'est logique.
Amélie de Bourbon-Parme, dans le Parisien Week-end, ouais, en partenariat avec RTL, vous racontez sa chute, la chute de Napoléon, et notamment la nuit du 12 au 13 avril 1814. L'empereur vient d'abdiquer, c'est ça?
Oui, alors c'est une histoire qui me fascine et qui me passionne, parce qu'on est assez peu connu finalement de la tentative de suicide de Napoléon. Et en me plongeant dans cette histoire, parce que c'est vrai que pour un empereur d'abdiquer... Alors moi j'ai écrit un roman sur Charles Quint qui a abdiqué, donc je suis fascinée par les abdications. Et alors celle-là, elle a quelque chose d'assez poignant, qui est assez méconnu, c'est que l'empereur était fasciné par le suicide. Alors il n'était pas obsédé par ça, mais la mort faisait quand même vraiment partie de sa vie. C'est là un homme qui a fait le plus de guerres dans toute l'histoire de France. Et il avait fait une tentative de suicide plus jeune. Donc ça, c'est un épisode qui est assez méconnu. Et il a même écrit un petit traité sur le suicide. Bon, alors, tout ça, c'est pour planter le décor, mais oui, après, c'était pas un dépressif, Napoléon. N'empêche que...
Mais là, on peut dire qu'il a un vrai accès de déprime.
Alors, pourquoi, comment? C'est la 6e coalition, qui est la plus grosse coalition européenne de toutes les monarchies et de tous les royaumes situés autour de la France, de la Prusse, la Russie, l'Angleterre. Bon, l'Autriche regarde ça un petit peu loin au début, parce que, quand même, il a épousé la fille de l'empereur, Marie-Louise, donc c'est quand même un peu délicat d'aller attaquer le gendre. Mais en fait, en gros, tout le monde est contre lui, et Napoléon échoue dans cette campagne de France. Il revient vers Paris et là, il s'aperçoit, il découvre que Paris est tombé entre les mains du tsar et de la Prusse.
Il a été trahi en plus.
Il a été trahi, oui, évidemment, parce que quand la chance comme ça bascule, tous ceux qui étaient vos alliés se retournent contre vous, et notamment ses plus fidèles maréchaux, c'est le général maréchal Marmont, duc de Raguse, qu'il avait fait duc de Raguse, donc c'est ces hommes comme ça qu'il avait élevés tout en haut de l'édifice social, qui se retrouvent à vouloir pactiser avec l'ennemi, et ça fait basculer le tsar, qui décide que c'est une abdication sans condition. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de régence de sa femme, et ni d'enfant, l'aiglon qui va régner à sa place.
Et alors, sans ces défections, Napoléon aurait-il pu renégocier son abdication?
En tout cas, au départ, c'est ce qui était prévu, c'est que ce soit une régence qui soit instaurée, et que ce soit son fils, très petit à l'époque, il avait 3 ans, qui prenne la suite.
Voilà. Qu'est-ce que ça prévoit en détail, ce traité d'abdication que Napoléon refuse de signer ?
Le traité de Fontainebleau, c'est une façon pour l'empereur d'accepter la situation et surtout, ça fixe son sort à lui, qui est celui qui va être le sien jusqu'à l'île d'Elbe, qui est de recevoir justement cette sorte de petit royaume en partage pour continuer à avoir son statut d'empereur. C'est ça qui est fou, ce traité de Fontainebleau, qui institue que l'empereur continue à être empereur et qui va recevoir aussi une pension de 2 millions par an, à peu près, qui sera versée par le gouvernement.
Il veut mourir, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il fait avant de on va raconter le suicide, la tentative dans un instant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut écrire une lettre, c'est ça ?
Oui, forcément, parce que ce qui le chagrine énormément, c'est un grand sentimental, c'est de ne plus voir sa femme et de ne plus voir son fils. Et ça, il sent qu'en partant à l'île d'Elbe, c'est fini, qu'il ne les reverra jamais. Et donc, cet accès de désespoir qu'il saisit dans cette nuit du 13 au 14 avril, et il va tenter de se suicider.
Et il écrit une lettre ou il l'écrit pas ?
Il écrit une lettre, en effet, à Marie-Louise. Alors, il s'y reprend à plusieurs fois pour... Je ne connais pas exactement le contenu de la lettre, si ce n'est que je l'imagine un tout petit peu. Il espère évidemment qu'elle va le rejoindre, là où il est prévu qu'il aille. Et puis, il lui dit sans doute adieu, qu'il l'aime. Et que malgré tout, c'est sa femme depuis pas très longtemps. Son grand amour, c'était Joséphine. Et Marie-Louise, il l'a épousée 4 ans plus tôt. Et donc, c'est un amour pas un peu fabriqué, mais enfin des circonstances quand même.
Avec quoi, avec quel objet ou avec quelle substance Napoléon va-t-il tenter de se suicider ? Pourquoi va-t-il échouer ? On vous raconte cette nuit historique juste après la pause sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
C'est alors que le rikiki petit homme, aussi petit qu'une petite souris toute minable, se retrouva dans les griffes du chat géant.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah, ça vous obsède réellement les histoires de taille, alors ?
Non, c'est pas une question de taille.
Sur RTL.
Sans vous vexer, vous êtes Napoléon. Il y a un complexe qui porte votre nom, vous êtes célèbre pour votre petite taille.
C'est pas une question de taille, c'est pas la taille qui est importante, c'est le plan.
Oh, c'était Alain Chabat dans la nuit au musée, c'était magnifique. Alors dans la curiosité, on vous raconte cette nuit d'avril 1814 où la mort n'a pas voulu Napoléon.
Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. Je crois que j'ai dit que ça faisait 97 ans qu'il était mort.
On n'a même pas relevé.
Mais vous êtes sympa, mais vous auriez pu vous foutre de moi.
Non, mais parce que Napoléon est éternel. Donc il est avec nous.
Mais il me manque un siècle dans l'histoire, c'est à peu près ça, je crois. Mais je vais reprendre ma calculatrice.
Alors on repose les choses. Amélie de Bourbon part, mais il vient d'abdiquer, mais il refuse de signer le traité qu'il envoie sur l'île d'Elbe et il veut se suicider. Comment ?
Alors, l'histoire raconte que c'est par un petit sachet avec du cyanure dedans qu'il avait gardé avec lui depuis la campagne de Russie. En fait, pendant cette campagne, il avait demandé à son médecin de lui donner de quoi se suicider, se supprimer, s'il était tombé dans les mains des armées ennemies, des armées russes, pour ne pas être prisonnier. C'était insupportable pour lui. Et donc, il avait gardé ce petit sachet dans sa poche, et c'était un poison qui lui permettait, entre guillemets, de ne pas être déformé par la mort, et du coup, d'apparaître à peu près présentable, ou en tout cas que son cadavre le soit, pour le moment où il serait évidemment remis à son armée, à ses généraux, parce qu'évidemment il avait le souci de rester toujours digne et présentable. Donc il absorbe cette petite capsule mélangée avec de l'eau pendant la nuit au château de Fontainebleau. C'est son majordome qui orchestre pas ça, mais qui devait se douter de quelque chose parce qu'il avait retiré les balles de son pistolet, donc il n'avait plus de quoi se suicider autrement. Et je pense que de toute façon, il n'aurait pas choisi ce moyen-là.
Oui, pour ne pas avoir un visage ou le corps déformé, d'accord.
Mais voilà, et qui finalement tente d'ingurgiter ce poison. Et ce poison est en fait frelaté, c'est-à-dire qu'il est trop usé. Ça fait 2 ans qu'il est dans sa poche, et donc le poison ne fonctionne plus. Donc il a des nausées épouvantables. C'est à mon avis jamais agréable d'avaler un peu de cyanure, mais en l'occurrence, ça ne le tue pas. Et donc il passe la pire nuit de sa vie, fait venir le général Caulaincourt, qui était justement venu avec ce fameux traité de Fontainebleau pour le lui faire ratifier, et il lui dit « Je vais te donner mes dernières volontés, prends un papier, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses pour quand je serai mort. » Et puis il ne meurt pas, et il est furieux, et il convoque un médecin. Et le médecin arrive...
Quel médecin ? Pas n'importe quel médecin.
C'est le médecin qui suivait un tout petit peu sa santé, ou en tout cas qui était une personnalité qui avait l'habitude de le rencontrer, et il lui dit « Il faut absolument me donner quelque chose de plus violent, parce que je veux absolument mourir ce soir. »
C'est horrible, c'est juste dramatique.
Non, mais c'est dramatique, mais en même temps, pour imaginer un empereur qui a régné sur un empire de plus de 140 ou 120, pardon, c'est moi là du coup qui ai un doute sur les chiffres, départements, plus de 44 millions de sujets, qui d'un coup va se retrouver à l'île d'Elbe, qui fait aux alentours de 200 km². Pour lui, c'était insupportable. Donc, Il veut mourir et le médecin, affolé par la perspective de la responsabilité immense qui lui incombe, part en courant du château de Fontainebleau. Il disparaît, il ne veut plus entendre parler de cette requête. Du coup, l'empereur est condamné à vivre. Et là, il a cette phrase, ou en tout cas, on lui prête cette phrase, « Si la mort ne veut pas de moi, alors je suis vraiment... c'est pas la peine de m'acharner, je vais continuer à vivre. » Et au final, il va du coup devoir faire ses adieux à ses généraux dans la cour de Fontainebleau. Et c'est cette fameuse scène qui est racontée dans ses mémoires.
Mais est-ce que vous vous rendez compte, Amélie Bourbon-Parme, que Napoléon veut donc, on l'a bien compris, se suicider parce que ses généraux l'ont trahi, ses proches l'ont trahi, sa femme est partie avec son enfant, et puis aussi parce qu'il a le spectre du retour des Bourbons sur le trône. Et imaginez que c'est une petite fille Bourbon qui raconte ça dans un papier. Oui, il doit se retourner dans sa tombe.
Non, mais alors, avouez que je lui rends plutôt hommage. Mais et oui, finalement, sûr. Non, mais bon, après, je ne suis pas non plus une fan absolue de Napoléon, si ce n'est qu'en effet, ce qu'il désespère beaucoup, c'est que c'est Louis XVIII, le futur Louis XVIII, donc Louis Stanislas Xavier, qui est donc le frère de Louis XVI, qui est vu comme être le successeur après son départ. Et c'est Talleyrand, et c'est là où vous dites, vous avez raison, c'est un des fameux traîtres de toute cette histoire. En tout cas, on peut le voir historiquement comme un traître, si ce n'est que lui avait en tête les intérêts de la France, qui à l'époque, c'est vrai, était quand même assez compromis par Napoléon, qui n'était plus respecté, qui avait échoué à maintenir un équilibre des forces européennes. Et donc, Talleyrand considère que c'est lui qui a, entre guillemets, trahi Napoléon.
Et il va donc finalement ratifier ce traité, embarquer en direction de l'île d'Elbe.
Semaines plus tard.
Mais oui, son séjour sur l'île d'Elbe va durer 300 jours. Mais comment on passe le temps sur une petite île en Méditerranée? On va vous raconter ça dans un instant sur RTL.
Abdiquer. Vos ennemis vous accorderont de vous retirer à l'île d'Elbe avec une garde personnelle de 1000 hommes.
Jusqu'à 15 heures.
Vous vous tenez devant moi, brandissant une feuille de papier, et criant « Abdiquez, abdiquez !» Il n'en est pas question ! Pas question !
La curiosité est un vilain défaut, avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
La France me suivra comme toujours jusqu'aux étoiles si je lui donne une autre victoire.
RTL. Et à Bachante, Waterloo, alors on est un tout petit peu en avance, hein, puisque ce sera quelques mois plus tard, le Waterloo de Napoléon. On est toujours avec l'historienne Amélie de Bourbon-Parme pour raconter la chute de Napoléon. Et on est donc là, début mai 1814, quand il débarque sur l'île d'Elbe. Est-ce qu'il débarque seul ou est-ce qu'il a une cour avec lui?
Alors, il débarque pas totalement seul, si ce n'est qu'il y a eu un grand débat pour qu'il arrive sur cette île d'Elbe. Il était question qu'il aille en Corse. Il était question qu'il aille en Sardaigne, mais le tsar s'y est opposé en disant que ça appartenait à la famille de Savoie. Et donc, finalement, ils se mettent d'accord sur cette petite île au large de la Toscane, qui est apparemment un lieu quand même assez de surveillance maritime assez important. Et donc, il avait déjà, en tout cas, qu'il connaissait et qu'il avait longé quand il était à la tête des armées d'Italie.
C'est tout petit.
Donc, c'est tout petit, ça fait à peu près 224 km², donc pas à peu près, très précisément. voilà, et donc cette île, malgré tout, il y a toujours des choses à faire dessus. Donc, il ne sait pas trop où s'installer au début, donc il va dans la mairie de Porto Ferraio. Et quelques temps après avoir visité l'île, il décide de l'investir d'une façon un petit peu plus personnelle. Et il va s'installer dans une caserne sur les hauteurs de la ville. Alors, il va faire des travaux, il va fabriquer une sorte de palais, le palais des moulins, ça va s'appeler, et qui a une vue sublime. On imagine sur toute la Méditerranée, il paraît qu'on voit les côtes de la Corse, donc c'est vraiment un endroit somptueux. Il emménage un très beau jardin qui surplombe la mer, et il va faire des travaux parce que Napoléon est quand même obsédé par construire, agrandir, perfectionner. Donc il va doter, alors ça je trouve ça quand même très amusant, l'île d'égouts et de ramassage d'ordures. Donc ça c'est vraiment le progrès arrive sur l'île d'Elbe. Et puis il va également construire des écuries. Il va également apporter toute sa bibliothèque du château de Fontainebleau. Donc, il va rapatrier tous ses livres.
Et sa femme.
Et alors, non, justement, malheureusement, Marie-Louise refuse de venir. Elle était plutôt d'accord pour aller le rejoindre. Sans doute, elle devrait trouver ça agréable d'aller se promener un petit peu sur ses côtes méditerranéennes. Mais son père, François Ier, l'empereur d'Autriche, refuse parce qu'évidemment, leur mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même des circonstances. Alors, c'est la mère de son fils, l'Aiglon, le fameux roi de Rome, qu'il ne reverra jamais. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie assez émouvante dans cet exil à Elbe. C'est qu'il ne reverra jamais sa femme. Et et jamais son fils.
Mais donc, il est devenu une sorte d'attraction touristique, en fait.
Alors oui, d'attraction touristique, parce qu'en plus, sa mère Laetitia, sa sœur Pauline, qui avait été mariée au prince Borghese, viennent s'installer sur l'île. Et là, c'est une vie mondaine, sociale, assez débridée. Sa sœur donne des réceptions, des dîners. Ça devient un petit peu le lieu où il faut être, quand même, l'île d'Elbe à l'époque.
Il fait construire un hôtel, c'est ça ?
Il fait construire une sorte, oui, alors une sorte plutôt de palais, d'hôtel particulier. Alors après, ce qu'il va faire aussi, ce qui est assez amusant, il va installer des vignes. Donc il va cultiver une sorte de vin, peut-être. Je ne sais pas s'il fait des bouteilles, mais en tout cas, il y a des vignes qui vont être installées. Il fait venir des vaches. Donc il y a toute une petite économie, organisation autour de cette île. Et mais bon, quand même, au bout d'un moment, il s'ennuie. Il faut quand même l'admettre. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'il entend des bruits assez négatifs venant de France. Le pays n'aime pas Louis XVIII, qui est très impopulaire. Mmh. Et en plus, il ne reçoit pas sa pension, ces 2 millions qui lui avaient été promis. Et puis, il a très peur, parce qu'il n'a quand même que 45 ans. C'est un homme encore dans la force de l'âge. Il menace, d'une certaine façon, la nouvelle restauration des Bourbons.
Ça veut dire qu'il continue, malgré son court exil, de faire peur aux puissances européennes.
Il continue à inquiéter en France, d'autant que, comme je te le disais, la restauration n'est pas très populaire en France, et donc il sent qu'il y a quelque chose à jouer. Et puis surtout, il se dit, si je reste là, peut-être qu'on va m'exiler encore plus loin, donc il faut que je tente ma chance.
Et il ne résistera pas, effectivement, à la tentation de revenir prendre le pouvoir, débarquer au Golfe Juan. L'aventure durera 100 jours jusqu'à Waterloo, mais ça, on le racontera peut-être dans une autre émission.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Amélie de Bourbon-Parme. Et je vous conseille à toutes et à tous de lire cet article, ce récit dans le Parisien Week-end, la nuit où la mort n'a pas voulu de Napoléon, et c'est en partenariat avec RTL. Merci encore, Amélie.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.